Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Et merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement maintenant. Et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invitée, la comédienne Sandrine Kiberlin. Je ne sais pas pourquoi je dis comédienne, car elle va nous parler de son premier film en tant que réalisatrice. Ça sort demain, le titre « Une jeune fille qui va bien ». Elisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici la matière dont les médias, plutôt la manière dont les médias traitent de l'actualité, et ce matin, mais la matière également. Vous avez eu envie de rendre hommage au travail effectué par la chaîne Public Sénat.
Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre la façon dont les médias traditionnels couvrent l'actualité politique et le traitement réalisé par Public Sénat. Je vous raconte, mardi dernier, toutes les chaînes avaient les yeux rivés sur un énorme dossier. Les vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer. Grosse polémique, tempête médiatique et un ministre de l'Éducation sommé de venir s'expliquer à 20h.
Bonsoir Jean-Michel Blanquer.
Bonsoir Gilles Boulot.
Afin de répondre à une question politique de la plus haute importance, fallait-il ou pas se rendre à Ibiza en hiver ?
Bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été.
Voilà, il y a tout juste une semaine donc, au chapitre éducation, l'information se résumait à une question très facile à traiter puisqu'elle opposait deux catégories dont les médias raffolent, les pour et les contre. Cependant, au même moment, et toujours à la page éducation, au Sénat, une commission d'enquête s'intéressait à un dossier explosif, mais un peu technique et surtout pas sexy pour dessous, l'influence des cabinets de conseil sur la politique du gouvernement. Alors bien sûr, dit comme ça, Philippe, c'est beaucoup moins affriolant que... La Nouba à Ibiza. Et pourtant, figurez-vous que mardi dernier, la sénatrice de Seine-Saint-Denis, Éliane Assassi, a posé en commission et devant les caméras de Public Sénat une question très intéressante au directeur associé du cabinet McKinsey.
Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ?
En d'autres termes, Philippe, en regardant Public Sénat mardi, on a appris que le gouvernement avait versé près d'un demi-million d'euros à un cabinet de conseil privé pour mener une mission à l'intitulé plus qu'obscur et que le Sénat avait donc très envie de comprendre quel travail précis le cabinet McKinsey avait effectué pour cette somme rondelette. Excellente question, à laquelle le dirlot du cabinet a répondu d'une façon... Donc je vous laisse apprécier le côté plus qu'alambiqué. Pour information, DITP, ça veut dire Direction Interministérielle de la Transformation Publique. Écoutez.
Et notre rôle a été d'accompagner la DITP pour organiser un séminaire qui était prévu pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement, quelles étaient les évolutions si attendues du marché d'enseignants.
Voilà, le gars était à l'aise comme un poisson dans l'eau. Hein, et face à sa réponse hautement sibylline, la sénatrice a fait... Comme tout le monde, elle s'est bien marrée.
Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise.
Avant de lui rappeler que 500 000 euros, c'était quand même pas rien, et de lui redemander de bien vouloir s'expliquer.
Donc, ça aboutit à quoi précisément ?
Alors là, Jean-Michel à peu près a donc repris son élan, et il a réessayé d'expliquer ce qu'il avait fait avec le demi-million d'argent public.
Et donc réfléchir à un certain nombre de thèmes de réflexion qui étaient prévus pour la tenue d'un séminaire avec les responsables enseignants qui étaient prévus en février 2021.
Voilà, le cabinet McKinsey a donc réfléchi sur des thèmes de réflexion et il a préparé un séminaire, Mazette. Alors pour information, Philippe, vous serez sûrement très intéressé d'apprendre que ce satané séminaire n'a finalement jamais eu lieu et qu'un cabinet privé nous a donc coûté un pognon de dingue pour simplement réfléchir. Splendide séquence qui pose plusieurs questions très politiques. Par exemple, pourquoi l'État paye-t-il à grands frais les travaux de ce cabinet privé ? Ou encore, n'y a-t-il pas au sein de l'administration française des fonctionnaires capables de réfléchir, eux aussi, à ce genre de questions ? Mes séquences, malheureusement, vues nulle part ailleurs que sur Public Sénat, non relayées par les autres chaînes qui étaient ce jour-là beaucoup trop occupées à danser au rythme des petites polémiques.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain, dernière info, Public Sénat, c'est le canal 13 de la TNT. Nicolas Caro, 10h38, encore des chiffres. C'est l'heure de votre indispensable. Vous allez nous parler de quoi, Nicolas ?
D'un roman tout à fait extraordinaire, vraiment, mais qui s'appelle Ordinaire.
Quel teaser, ouais. Dans un instant, Sandrine Kiberlin, elle parle de son nouveau film, son premier film en tant que réalisatrice, Une jeune fille qui va bien. Mais d'abord, musique avec Stromae sur Europe 1.
à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas. Brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Santé, c'était Stromae sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Sandrine Kiberlin.
Bonjour.
Content de vous recevoir et surtout ce jour-ci, vous allez comprendre pourquoi. Comédienne, on va citer Les Femmes du 10e étage, Le Petit Nicolas, Elle l'adore, 9 mois ferme, Des récompenses, César du meilleur espoir féminin, c'est en 96 pour En avoir ou pas. Et au théâtre, Molière de la révélation théâtrale pour le roman de Lulu, pièce de 97 écrite par votre papa sous pseudo. Pourquoi je dis un jour particulier? Car vous signez votre premier long métrage en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Marder et André Marcon. Ça sort demain. Comment ça va?
Ben ça va.
Comment
je
on
suis,
est?
Je suis émue. De... Ouais, je suis émue, j'avoue.
Vous êtes fébrile, vous êtes angoissée.
Ouais, je suis pas angoissée. Le vrai mot, c'est émue. Je suis un peu à fleur de peau. Voilà, je me sens un peu. Je l'ai porté ce film, je l'ai écrit, j'ai fait tout le parcours du combattant. Je voulais vivre ça, je l'ai vécu, ça a été un des moments les plus heureux qui soit. Et maintenant, je la lâche dans la France entière, ma jeune fille qui va bien demain. Donc c'est un passage, quoi. C'est vraiment une étape de faire un film, c'est pas rien, quoi.
On en parlera, 4 ans de travail. Schématiquement, grossièrement, que raconte Une jeune fille qui va bien? Qui est Irène, cette jeune fille?
Irène, c'est une jeune fille qui peut représenter toutes les Irènes du monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Mais il se trouve que c'est en 42, avant que le monde bascule, avant que la guerre soit vraiment présente. Mais on sent les prémices dans le film. Et c'est volontairement assez absent. Parce que je suis vraiment. L'idée, c'est de suivre cette héroïne dans tout ce qu'elle a de plus joyeux, de plus insouciant, de plus de son âge, puisqu'elle a 19 ans et qu'elle est passionnée de théâtre, qu'elle vit son premier amour, qu'elle veut s'affranchir de ses parents. Mais il se trouve qu'il ne faut pas non plus lâcher cette tension qui monte comme ça, qui est l'avant-bascule et qu'elle pressent. Donc elle a des évanouissements, mais ça ne l'empêche pas d'avancer parce qu'elle est intouchable, elle est immortelle, elle a 19 ans. Donc c'était par ce biais-là que je voulais parler de l'horreur de cette époque, par la vie et par ce qui peut nous choquer puisqu'on est en avance sur elle et qu'on sait comment ça se termine en général. Et donc on craint pour elle, on espère pour elle, voilà.
La bascule, on est en 42, sont les lois juives.
Ouais.
On va comprendre, c'est une sorte de photographie, la bande-annonce.
À quoi songez-vous donc en me considérant si fort ?
Songe que vous embellissez tous les jours.
Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie.
Je ne veux pas me reposer à mon âge.
Tim Tige Kebes Freudig Zuzu. Elle répète après moi, c'est de bon ton d'apprendre l'allemand.
À 20 ans, rien ne se fera sans toi.
Juste faire une ou deux choses dans les règles.
Mais ça veut dire quoi, ça ?
Que la mention juive devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité.
Ça paraît fou.
Et moi, je ne suis pas mélancolique.
Texte. Vous dites, j'ai eu l'impression de naître à 19 ans, et on se dit qu'Irène, c'est vous.
Ah bah, il y a forcément de moi, je l'ai écrite, je l'ai inventée.
Ouais.
Donc très vite, elle est devenue...
Elle veut aller au conservatoire,
c'est vous. Oui, très vite, elle est devenue une passionnée de théâtre qui allait vouloir passer le conservatoire comme moi au même âge. En fait, j'ai voulu parler de cet âge-là aussi parce que ça représentait pour moi le plus bel âge. L'âge où on concrétise ses passions, où on, quand on en a une, ce qui est une chance. L'âge où on découvre tout, quoi. Et puis on fait des choix, on se lance dans la vie. Et c'est le plus bel âge, on a tous les espoirs. Et donc, voilà, elle me ressemble, c'est sûr.
Pourquoi vous dites « j'ai eu l'impression de naître à 19 ans » ?
Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être très protégée, d'être spectatrice, d'être emportée par mes parents, aimant, par... on était un quatuor, comme ça, avec mes parents, ma sœur et moi, descendant d'une famille qui avait échappé au pire, mais qui, du coup, était très... nous montrant une image de la vie extrêmement positive, extrêmement joyeuse... mes grands-parents parlaient très peu de cette période qu'ils avaient traversée, étant juifs polonais eux-mêmes et étant rescapés du pire. Mmh. Et ils en parlaient très peu pour nous, je pense, nous insuffler une pulsion de vie, quoi.
Ils en parlaient très peu, mais est-ce que vous leur posiez des questions ?
Oui, plus tard, pas tout de suite, pas jeune. Quand j'ai eu cette renaissance à 19 ans et que j'ai compris à quoi allait ressembler un peu plus ma vie à moi, mes choix à moi. Là, j'ai interrogé plus mes grands-parents, ma mère, mon père, ma tante aussi. C'est devenu une préoccupation pour moi qui était silencieuse et qui a fait plus de bruit à ce moment-là.
Il y a un contexte historique, on n'en a pas encore parlé. On n'a pas aussi parlé des anachronismes volontaires.
Ouais.
Sandrine Kiberlin avec nous. Je vous demandais comment vous étiez avant 19 ans. Justement, Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Blandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'actrice et maintenant réalisatrice Sandrine Kiberlin pour son film Une jeune fille qui va bien. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa propre célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Sandrine Kiberlin.
Bonjour.
Vous avez joué dans plus de 50 films et obtenu 2 Césars et 1 Molière, mais comment en êtes-vous arrivée là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Sandrine Kiberlin, vous êtes née à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Enfant, vous aimez vous inventer des vies. Par exemple, un jour, vous êtes vétérinaire avec de faux instruments, des peluches patients à qui vous vous adressez avec leur dossier sous le bras. C'est toujours très précis ce qui se passe dans votre monde imaginaire. Vos parents vous donnent très tôt le goût pour le cinéma en vous partageant leur passion. Votre papa aime aussi vous filmer avec sa petite caméra. Et puis, votre maman est une grande fan de comédies musicales, surtout celle avec Fred Astaire. Vous prenez d'ailleurs des cours de claquettes.
Oui, pendant 12 ans.
12 ans.
Ouais. Elle nous a embarqué. Elle est singulière quand même, ma mère. Parce qu'à l'époque, tout le monde ne faisait pas des claquettes.
Non.
Donc elle nous a embarqué dans son cours. J'ai été médaille de bronze, s'il vous plaît.
Ah bon, oui. À quel championnat ?
au championnat de la MJC de je ne sais plus où, mais c'est pas rien. Hein. Je peux
mais
en refaire.
Bronzée,
vous savez que c'est, ça reste. Hein. Je peux prendre des chaussures là et en refaire.
Comme le vélo.
Ouais.
J'ignorais.
Mais le tout premier film que vous allez voir au cinéma avec votre tante cinéphile, c'est Les Enchaînés d'Alfred Hitchcock,
ouais,
avec Ingrid Bergman et Cary Grant.
Non. C'est un sacré film à voir comme premier film pour une petite fille. Vous aviez quel âge ?
Oh non, j'avais une dizaine d'années. Ouais, j'étais jeune, hein, mais c'est la barre est haute, ouais, c'est sûr. Mais j'ai adoré voir Ingrid Bergman comme ça, en énorme. Je me prenais pour elle, évidemment, en sortant. Donc voilà, la barre était très haute, mais c'était génial d'avoir une tante qui aimait autant le cinéma.
Sandrine Kiverlin, à l'école, vous vous arrangez pour être dans les bons élèves, sans trop travailler, sauf en dessin. Vous êtes très douée.
J'ai eu 20 au bac.
Ah, 20
je
au bac.
Je voudrais le dire quand
ah
même.
Ah bah oui, ouais. Faites bien de le préciser.
Ouais. Bah quand même, c'est pas rien. Ouais. Je voulais même récupérer mon dessin. Ils m'ont jamais donné mon dessin. C'était le thème, je me souviens très bien, c'était une recette de cuisine et j'avais fait un personnage un peu BD, la bouche grande ouverte, et j'avais mis tous les ingrédients de la recette dans sa bouche, trop grande comme ça, mais j'avais assuré avec plein de taches de rousseur. Je me souviens, il était un très BD. J'avais eu 20.
Wow.
C'est pas commun.
Vous avez eu le bac de justesse ?
Ouais.
Donc vous l'avez eu grâce au dessin ?
Oui, je l'ai eu. Mais je le dis souvent, j'ai eu le bac grâce au dessin.
Dingue.
Mais j'étais aux Beaux-Arts après d'ailleurs.
Vous êtes très douée en dessin et apparemment en coiffure aussi, puisqu'un jour vous avez coupé les cheveux d'une fille qui voulait vous voler votre amoureux.
Non, pas les cheveux, j'ai coupé.
Et elle l'a tondu.
C'est le truc le plus. Non, quelle horreur. Non, en plus c'est horrible. Non, non, j'avais des ciseaux sous les mains. La fille, on sentait que sa force c'était ses cheveux. Et comme elle était sur les genoux de mon mec à l'époque et que j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans.
Vous excusez pas.
J'étais au cours Florent. Non, je m'excuse pas, j'assume complètement. Mais c'est le truc le pire et le seul, je crois, que j'ai fait vraiment par instinct de jalouse que j'étais. Il y avait des ciseaux, j'ai pris une mèche et j'ai coupé sa mèche. Elle était bien plus choquée que si j'avais, je sais pas, si tu lui avais dit « lève-toi et dégage ».
Pardon, juste un mot, c'est une scène de film.
Oui, ça pourrait. C'est vrai que ça s'invente pas.
Et vous parlez du cours Florent, vous en entendez parler au moment du lycée, alors vous y allez, vous écoutez un cours de Francis Huster derrière la porte. Mmh. À la pause, il sort et tombe sur vous. Il vous demande si vous connaissez un poème et vous récitez alors les paroles d'un texte de Francis Blanche devant ses élèves.
Ouais.
Un texte qui dit « Ça tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées, c'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises.
Wow. » Ouais. Francis Blanche.
Et vous n'étiez pas impressionné, vous n'avez pas le trac devant Huster ?
Si, à fond. Et en plus, j'étais très admiratif d'Huster. J'allais le voir encore avec ma tante au Français à l'époque. Mais j'avais une grosse frange, j'avais plein de bijoux. Il me disait, mais enlève-moi cette frange et tous ces bijoux derrière lesquels tu te caches et on va voir, vas-y, dis-moi ton texte. Et j'étais devenue la mascotte. Mais c'était un rêve pour moi parce qu'il m'a dit de venir. J'étais encore au lycée tous les mercredis, j'y allais. C'était sur l'île Saint-Louis, là où dans mon film, les jeunes répètent d'ailleurs sur les quais de Seine. Et j'emmenais avec lui des glaces Bertillon pour tout le monde. Et je regardais des scènes des élèves. Il faisait bosser des scènes de films. Isabelle Nanty, je me souviens, elle bossait Cabaret de Liza Minnelli. Il y avait un acteur, Thierry Frémont, qui bossait Tutsi, Éric Tarot, qui bossait. Enfin, je voyais des jeunes comme. Je rêvais d'être à leur place et ça m'a menée jusqu'au conservatoire, je pense.
Et oui, vous intégrez le Conservatoire National Supérieur après le cours Florent. Et pour le concours du Conservatoire, vous faites rire le jury avec une scène d'Annie Hall, le film de Woody Allen. D'ailleurs, vous êtes fan du réalisateur, mais aussi de son actrice fétiche, Diane Keaton. Vous vous habillez comme elle, avec le même style de pantalon, et vous portez aussi un chapeau à cette époque.
Oui, toujours d'ailleurs, j'avoue, ça ne me quitte pas. On ne se transforme pas, ce n'est pas un calcul, si vous voulez. C'est que d'un coup, on se ressente
sur soi-même.
Ouais, non, c'est pas du tout ça. Enfin, on se ressente sur soi-même. Oui, au début, quand on est actrice, on est très centré sur soi-même. Ça passe avec les années, mais non, on s'habille comme on est habillé. Puis on voit une actrice qui s'habille comme vous. Il y a une identification. Les actrices, c'est aussi un truc d'identification. Donc Diane Keaton, j'étais étonnée parce que je m'habillais à l'époque avec des chemises, des pantalons d'hommes, j'aimais pas afficher ma féminité. Je voyais en elle un peu. Qui j'étais, donc j'étais assez passionnée par Woody Allen et ses héroïnes, ouais.
Sandrine Kiberlin, vous découvrez au conservatoire que vous adorez que les gens rient de votre jeu d'actrice, exactement comme lorsque petite, vous imitiez les copains de colonies de vacances. Vous êtes aussi toujours là pour aider les autres. Lorsqu'un jour votre professeur, Daniel Mesguige, n'a pas le moral, vous lui rejouez à une terrasse de café une scène de Marivaux dans laquelle deux filles s'engueulent et vous prenez tout ce qui vous tombe sous la main pour vous maquiller du sucre, de la crème, tout ça juste pour le faire.
Du sel, du poivre, ouais, dans le café en face du cours. On était une promo. exceptionnel, il le dit, hein, Daniel. C'était des années magiques. Il y avait, je suis restée très très proche d'ailleurs de ceux avec qui j'étais au conservatoire. Mais ce qui m'a donné envie dans le film que j'ai fait de filmer cette jeunesse-là et ce groupe de potes, parce qu'on faisait tout seul, on était un peu comme la troupe du Splendide version conservatoire, quoi. On faisait les décors, les costumes, on rigolait. Il y avait Pierre Cassignard qui est mort il n'y a pas longtemps, et il y avait Florence Viala qui est restée ma meilleure amie, qui est dans mon film, et qui joue la voisine Josiane, amoureuse du père. Et on faisait un groupe très solide, ouais.
Sandrine Kiberlin, fraîchement diplômée du conservatoire, vous démarrez alors votre carrière. Vous découvrez d'abord les hauts et les bas des castings, jusqu'à celui du film Patriote d'Éric Rochant. Vous faites une dizaine d'essais. Le producteur n'y croit pas. En fait, il a une actrice américaine en tête, Bridget Fonda. Pour le convaincre, vous coupez les cheveux et ça marche. Vous décrochez le rôle d'une
call
girl.
C'est pas moi qui ai décidé. Hein. C'est...
On vous suggère de
en fait,
vous couper
ce
les cheveux.
Ce qui était magique, et c'est ça qui est beau dans les histoires des films, c'est que le réalisateur tenait tellement à moi, c'était Éric Rochant qui avait déjà fait Un monde sans pitié, donc qui était déjà très, très aimé et très attendu pour son prochain film, et qui n'en démordait pas, je sais pas, il a fait une fixette sur moi alors que j'avais les cheveux jusqu'au coude, j'avais tout juste 20 ans, et il me voulait pour le rôle d'une call girl de 30 et quelques années, avec les cheveux courts et extrêmement féminine et sensuelle, ce qui n'était pas du tout... Dans mon esprit possible à jouer. Et puis on a passé des essais, et pour convaincre le producteur d'être prise, il m'a dit: est-ce que t'es prête à te couper les cheveux, à mettre une robe au ras des fesses et à jouer les essais? Et le producteur m'a pas reconnue, il a dit: mais c'est qui, c'est elle? Et hop, j'ai été prise.
Vous décrochez donc le rôle d'une co-girl aux cheveux courts, donc vous remportez le prix Romy Schneider et vous êtes nommée meilleur espoir féminin, un César que vous remporterez l'année suivante. Votre carrière, Sandrine Kiberlin, est définitivement lancée et vous n'allez plus cesser de surprendre, d'émouvoir et de faire rire avec cette finesse, cette nuance et ce petit grain de folie qui rend chacun de vos personnages unique. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci. Une double histoire de ciseaux. On coupe, on revient tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Sandrine Kiberlin, la comédienne qui signe son premier long métrage en tant que réalisatrice, s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Marder et André Marcon. Je voudrais qu'on entende un extrait. Il y a une double histoire dans ce film. Il y a l'histoire de cette jeune Irène qui prend des cours de théâtre, qui veut entrer au conservatoire. Et puis, il y a la grande histoire, malheureusement, avec un grand H sinistre, les Allemands à Paris en 1942, et l'instauration peu à peu des lois juives. Faudra-t-il ou non avoir une étoile jaune? Et les Juifs doivent se faire recenser auprès de la préfecture ou de la mairie, j'ai oublié. On va entendre un extrait. Elle prépare ce concours du conservatoire. Quand son partenaire de scène disparaît, on ne sait pas trop pourquoi encore à ce moment du film, elle revient à la maison. Et elle demande aux trois membres de sa famille de répéter avec elle. Il y a là son frère, son père, sa grand-mère et Irène.
Toi, tu restes assis là?
Mais Irène, tu vois bien qu'on n'est pas d'humeur.
Voilà. Toi, tu restes assis là?
Mais Irène, tu vois bien qu'on n'est pas d'humeur.
Mais justement, on va jouer d'autres humeurs là. Tu vas jouer frontin, comme ça c'est plus court. Tu restes assis là et tu te lèves, quand je te le dirai, tu te lèves sur à quelle heure voulez-vous que je parte? T'as compris?
Oui, oui.
Toi, tu vas jouer la jeune première, Angélique.
Alors, jouer la jeune première, Angélique, ça me va très bien.
Voilà, parfait. Mais par contre, vraiment, face publique, tu t'imposes. Et toi, Lucidor, parce que ça rime avec Igor.
Frontin, Lucidor, c'est pas très viril comme prénom.
Bon, dis ta réplique.
À quelle heure voulez-vous que je parte?
En te levant. Que je parte, tu te lèves.
Oui, mais alors je le dis à qui?
Mais tu le dis pour moi, tu le dis pour que je l'entende dans l'espace.
À quelle heure voulez-vous que je parte?
Voilà, parfait.
Elle n'est pas encore comédienne, mais elle est déjà metteur en scène. Hein. Ça rigole pas sur le plateau. Hein.
Oui, c'est vrai. Elle est très... Mais en fait, elle pressent que les choses tournent mal. Mais elle ne veut pas voir ça, elle ne veut pas leur donner ça. Et elle veut surtout mettre de la vie partout où il y en a moins. Et quand il y a un poids qu'elle ressent, elle met du théâtre partout. C'est un peu la mouche du coche, quoi. C'est un peu celle qui vient virevolter tout le temps, et encore plus quand c'est un petit peu plus morose, quoi.
Il y a un débat, pour pas dire un schisme, entre le père et la grand-mère.
Ouais.
André Marcon, le père, respecte les lois. Il veut faire de sa famille de bons Français loyaux qui seront sauvés
surtout,
par l'État français.
Surtout, c'est son moyen de penser que c'est la plus sûre des protections, en fait. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ?
C'est d'obéir aux lois. Et la grand-mère, jouée par Françoise Vidoff, s'y oppose. Elle dit « Si tu vas à la mairie nous déclarer comme juifs, je me jette par la fenêtre.
Ouais. »
D'où vient cette phrase ?
De ma grand-mère maternelle. Ouais. Et il y a eu des phrases de femmes de mon entourage, en tout cas, qui ont été des phrases d'instinct de survie, des phrases folles. Mais des phrases, quand on est, je pense, dans une urgence, dans une injustice telle, on décuple de courage ou on a des réactions qui nous surprennent. Ou... Ma grand-mère, à plusieurs reprises, a eu des réactions...
Disant à votre grand-père, il ne faut pas obéir.
Oui, il ne faut pas obéir.
Parce que votre grand-père voulait obéir.
Ce qui est quand même fou, mais comme beaucoup... Beaucoup voulaient obéir parce qu'on obéit le plus souvent, on est docile quand la situation se gangrène comme ça et que ça devient injuste.
Je veux dire, ce qui me frappe dans cette histoire, je sais qu'il y avait plusieurs attitudes possibles. Ce qui me frappe totalement dans votre film et dans votre histoire familiale, c'est que les deux attitudes étaient à l'intérieur même de la même famille.
Oui, souvent, c'était le cas. Donc, quand vous lisez les documents sur Simone Veil, c'était la même chose. Le père était très respectueux des règles et pensait que c'était la meilleure solution pour protéger les siens, et puis les femmes de la famille étaient plus rebelles, ouais, plus il y avait quelque chose de plus libre, de moins vouloir se plier justement à ces lois et à cette incompréhension, en fait. Et donc quand il y a une telle incompréhension, une telle injustice, pourquoi montrer du doigt les juifs tout à coup? Et elle revendiquait qu'elle n'était pas différente des autres, et donc elle gardait elle ne pouvait pas accepter ça, quoi.
Alors, vous parlez de la guerre sans la montrer. Il n'y a pas d'oripeau nazi dans les rues. On n'entend pas de bruit de bottes.
On le sait déjà, ça.
Et on le ressent un petit peu. Quoique, moi, j'étais complètement bluffé parce que je n'avais rien lu avant de voir le film. Et pendant les 15 premières minutes, je pense que ça se passe dans les années 60.
Ouais.
Il y a des anachronismes volontaires, évidemment.
Alors, ce n'est pas des anachronismes, parce que ça, je n'aime pas les anachronismes.
Il y a une lampe de poche. Ça existait, la lampe de poche, en 42?
Oui, tout existait.
Tout existait.
Les minuteries, quand ils se rencontrent dans la cour, même la minuterie, j'ai vérifié.
Ouais.
Tout existait et tout se passe chronologiquement exactement comme ça s'est passé. C'est un travail de documentation vraiment précis. Et tout ce qui monte, qui a l'air de monter très vite et qui m'a surprise d'ailleurs en me documentant. Je pensais que ça avait mis beaucoup plus de temps. Si vous voulez, par exemple, le port de l'étoile qui n'était pas obligatoire à un moment que certains portaient, mais qui n'était pas encore passé dans les lois officielles, devient officiel 3 semaines après. Tout s'est fait en 2 semaines. Et là, on est 2 semaines avant que ça bascule dans la rafle qu'on connaît tous. Donc c'est vraiment... j'ai suivi, si vous voulez, la chronologie, et même s'il n'y a que 3 ou 4 fois l'information de là où on est et de ce qui se passe, ça suffit pour nous rappeler là où on est et ce qui se passe, et de ne pas en rajouter, parce que le spectateur, lui, sait ce qui s'est passé. Et l'idée, c'est évidemment le paradoxe entre la jeunesse et la fougue et l'insouciance et l'envie de garder cette inconscience et de d'Irène et la tension qui monte et qu'on connaît.
Jeunesse, fougue, inconscience, tension qui monte. Vous étiez comment sur le plateau ?
Heureuse d'arriver sur le plateau. Heureux. Je crois que c'est un des moments les plus heureux de ma vie, franchement. Où j'étais... vous voyez quand on s'habille et que tout colle, quoi.
Je sais pas,
on met le t-shirt, c'est le bon t-shirt. Parce que j'avais l'impression d'être moi, mais de la tête aux pieds. Parce que j'étais portée par mon équipe qui m'avait comprise. Je me sentais comprise de partout, très aimée.
Ouais.
Parce que je les voyais tous tendus vers le même but qui était de faire mon film. Et j'en revenais pas, en fait, que tout le monde ait cru à mon projet, et que les acteurs donnaient le meilleur d'eux, toute l'équipe.
Vous avez fait cette confidence, pardon de vous interrompre 30 secondes, à Femina, c'était le 16 janvier dernier. Vous dites, j'étais investie à 200%, au point que la production pensait que j'étais folle.
Ouais. Oui, parce que j'arrivais et quand j'écrivais même, j'arrivais dans le bureau de mon producteur, Olivier Delbosque, et je lui disais « Et tu vois, là, je mettrais cette musique. » Il me disait « Ouais, ok, c'est bon. » Parce que c'était très anticipé sur le tournage, mais j'étais habitée, quoi. J'étais habitée, mais c'est la moindre des choses quand on fait un premier film. Donc je les assommais d'informations. Mon chef opérateur est devenu fou, je lui donnais des références toutes les 4 minutes. Ma chef d'écho... pareil, mais ils étaient tellement dans l'élan avec moi. On était tous des Irènes à défendre les Irènes qu'on a voulu défendre jusqu'au bout, quoi.
Ça s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est signé Sandrine Kiberlin. Vous restez avec nous à parler littérature avec Nicolas Caro. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Une jeune fille qui va bien, c'est le premier film en tant que réalisatrice de Sandrine Kiberlin. Vous dites que votre nom a été un avantage et un inconvénient auprès des producteurs, auprès des distributeurs.
Ah, oui, parce que, bon, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient de toute façon, mais c'est vrai qu'en étant actrice depuis si longtemps, ils pouvaient s'attendre à un film d'actrice égocentrique, ou je ne sais pas, ou avec un... c'est pas un gage de qualité, si vous voulez, d'être actrice depuis si longtemps pour passer à l'acte de la réalisation. Donc, ils attendaient de savoir ce que j'avais à raconter, quoi. Donc, on m'a fait passer des oraux un peu, mais comme moi, j'étais ravie hein, d'être considérée comme tout le monde.
Ouais.
Mais j'ai dû vendre mon beefsteak, quoi. Enfin, c'était pas acquis d'avance.
Et le texte, comment avez-vous travaillé ? Le scénario est de vous ?
J'ai écrit pendant 2 ans, ouais.
C'est votre scénario ?
Oui, j'ai inventé tout ça. Je savais pas si j'allais y arriver, je savais pas si j'allais y arriver en plus seule. Donc au début, je me suis dit, est-ce qu'il faut pas que je sois accompagnée pour accoucher de cette histoire ? Et en fait, j'arrivais pas à...
Souvent, un film s'écrit à deux.
Oui, ça peut, mais en fait, moi, j'ai eu besoin de l'écrire toute seule. Mais comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de moi, en fait, dans tous ces personnages, dans ce que je raconte. Si je voulais traiter de la joie de vivre d'une jeune fille, je me suis dit que j'y arrivais très bien toute seule avec ma mémoire et mes... Et mon envie voilà, d'être précise avec ça, ouais. Avec cette famille et tout ça.
Mais pour parler de 42, ce n'est pas votre mémoire. Et vous dites avoir fait lire votre scénario à une personne de choix, qui est Robert Badinter.
Oui, j'en ai parlé à Marceline Laurie dans Evans. Oh, ça, c'est la première qui m'a encouragée à parler de l'avant-guerre, ouais. Et de la joie de vivre de l'avant-guerre, mmh. Avant qu'on sache, au présent, sans savoir ce qui allait arriver. Et moi, je me suis tournée vers Robert Badinter, qui était mon voisin. Un voisin et pas des moindres. Donc, comme on a sympathisé, je lui ai demandé s'il avait le temps, voilà, s'il pouvait prendre le temps de lire mon scénario et de me dire si j'étais complètement hors sujet. Si c'est... Parce que je ne voulais pas tricher avec l'histoire non plus. Je voulais traiter les choses autrement, mais être juste dans la joie de vivre et dans la pulsion de vie.
Et alors, que vous a-t-il dit ?
Il m'a dit que c'était... Bah, il était touché. Il m'a dit c'est beau ce paradoxe entre la tragédie que ça a été et l'inconscience de cette jeune fille, quoi. La jeunesse contre la...
Bien sûr, parce que c'est ce qu'on appelle la théologie. Nous, maintenant, vu de 2022, on sait comment ça se
exactement.
Termine. Mais quand on est en 42, on ne sait pas comment ça
au
va tourner.
Au présent, on ne sait rien de ce qui va être le lendemain. Donc il m'a encouragé.
On va rester dans l'écrit avec vous, Nicolas Caro. Rebonjour.
Rebonjour.
Nicolas, ce matin, vous parlez de littérature régulièrement dans cette émission. Ce matin, vous nous proposez un polar.
Et cette semaine, voici... Ordinaire, signé Audrey Najjar, aux éditions du Masque. Le Masque, c'est Agatha Christie, etc. C'est le polar très haut niveau, quoi, qualité supérieure. Ordinaire raconte l'histoire d'Hervé, très sympa Hervé, mais un peu gris. Il habite avec sa femme dans un appartement à Alfortville. Il est depuis peu à la retraite, il vendait des pneus. Et il connaissait très très bien son sujet, il était fier aussi de vendre de la qualité. Aujourd'hui, il a 63 ans, il ne fait plus grand-chose. Il connaît ses voisins qui sont gentils, mais il se sent désœuvré, inutile quoi. Il souffre du syndrome du jeune retraité, il zone un peu dans la journée, il passe au perroquet, le bar-tabac. Il aime bien l'odeur de javel et de mousse qui règne là-bas, ça le rassure. Il y achète ses feuilles à rouler, puis de temps en temps, pas tous les jours, hein, il s'autorise un cash ou un astro, ou un jackpot pour le petit frisson. Ça lui permet de rêver un peu de ce qu'il ferait s'il était riche.
Alors pour l'instant, on est dans le titre ordinaire, mais c'est un polar.
Vous ne perdez pas le nord, effectivement. Et on ne suit Hervé qu'à la 3e page, en fait. À la toute première, on découvre un corps. C'est Aziz qui s'occupe de la petite copropriété qui le découvre. Mais ça, c'est en décembre. Et ensuite, donc, on remonte quelques mois en arrière où l'on découvre donc Hervé.
Donc c'est lui qui a fait le coup.
Vous croyez vraiment que je vais vous donner le nom
mais
du tueur en vous parlant d'un polar ?
J'arrive jamais à l'avoir. Il me fait que des fausses pistes,
Nicolas
Caro. Mais
moi, il faut que vous me laissiez le livre parce que ma mère est folle de polar. Elle a
je
même
vous
un...
l'offre.
Un Instagram Mamie Polar, elle va être folle
c'est
de ordinaire.
Vrai.
Oui.
Je pense que vous avez beaucoup aimé. Ce que je peux vous dire, en revanche, mais c'est déjà dans le titre, c'est que ce roman est une exploration de l'ordinaire, donc de la vie normale. Mais ça amplifie la tension, justement, parce qu'on se dit, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose jusqu'à... Ça, je ne vous dis pas. Enfin, au-delà même de l'histoire de l'enquête, si vous voulez, c'est un livre bourré de considérations très subtiles sur le quotidien, sur les voisins, sur les petites copropriétés, sur l'ennui, et aussi sur ce que justement cet ordinaire cache de terribles parfois, de non-dits, de secrets, et éventuellement de monstruosités. Il y a, regardez sous le titre, cette sentence, à mon avis, très intéressante. Il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens malheureux.
Ça s'appelle donc Ordinaire, c'est aux éditions du MAS, c'est signé Audrey Najjar. Merci beaucoup Nicolas Caro. Une réaction, et puis après je vais saluer votre maman.
Ah, une réaction par rapport à ce qu'on vient de dire.
Ouais.
J'aime bien le côté « il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens malheureux ».
Quand on regarde bien.
Ouais. Non, mais la méchanceté, ça vient forcément... Moi, quand je défends mes personnages, je pense toujours à ce qui les motive dans leur réaction. La méchanceté, ça vient... Alors, la jalousie aussi, ça vient forcément d'un... Enfin, quelqu'un de très heureux et peut-être moins jaloux et méchant que quelqu'un de plus... Oui, de plus malheureux.
On va méditer là-dessus et pendant la pause...
Enfin, ça n'excuse rien, il y a des gros méchants qui sont méchants, trop méchants.
Oui, mais c'est la leçon de Maître Yoda en fait. La haine qui mène à la colère, qui mène à la méchanceté.
On est d'accord.
Ouais, la bêtise aussi, ça c'est pire que tout.
C'est très difficile pour moi parce que moi on me demande d'envoyer la pub.
On discute avec Sandrine,
je voudrais faire un petit clin d'œil à Mamie Polar, le compte Instagram auquel chacun peut s'abonner.
Ma mère va m'engueuler.
Culture Média continue, je vous défendrai.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Sandrine Kiberlin, nous sommes mardi. Pourquoi je le dis ? Parce que demain, mercredi, Une jeune fille qui va bien, c'est son premier film en tant que réalisatrice qui sort. Vous allez faire une fête ? Vous allez faire une soirée chiffre ? On n'a pas le droit à cause du Covid ?
On a le droit d'être peu, mais on a le droit de faire une fête quand même. On va faire une fête... C'est pas rien quand même de sortir son premier film. Donc moi, quoi qu'il arrive, je ferai la fête.
Vous appréhendez les chiffres ?
Bah oui, on n'a pas envie que le film soit pas vu. On a l'impression qu'il y a que les gens qui le voient sont sensibles au film. Alors je trouverais ça bien qu'ils y aillent.
On va pas vous porter la poisse, au contraire. Le magazine Elle écrit ceci sur vous. Kiberlin à l'affiche, c'est la promesse, du moins la probabilité que le box office s'affole. Et Pascal LB disait, c'est pas seulement une question financière. Si vous avez Sandrine Kiberlin au casting, vous entourez plus facilement de bons acteurs quand elle est là. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Tout le monde a envie de monter dans le wagon.
Je disais ça de moi, quelle angoisse.
Non,
la
fille. C'est LB qui dit ça de vous.
Non,
c'est LB qui dit ça de vous. C'est Pascal LB qui dit ça de vous.
Ah d'accord.
Non, mais vous disiez, j'ai mis tout le monde avec moi.
Ah oui, j'ai mis tout le monde dans les...
Et LB dit la même chose
dans,
de vous.
Oui, c'est vrai que pour le film, j'ai senti... Ouais. Alors, comme actrice, c'est encore différent, mais... En fait, les gens qui vont voir mon film, là, en sauront plus sur moi que quand ils vont voir les films dans lesquels je joue.
J'ai bien compris. Ouais. Vous avez déjà envie de recommencer, d'en faire un deuxième ou un second ?
Eh oui, mais il faut attendre l'idée. Il faudrait claquer des doigts et que le scénario soit déjà écrit, parce que c'est quand même laborieux, un scénario à écrire.
L'idée, vous l'avez quand même donnée tout à l'heure, c'est une fille dont la rivale est assise sur les genoux de son mec et elle lui coupe les cheveux.
Ça vous a plu. Hein. Ça plaît. Hein,
j'ai vu, non mais c'est une histoire...
Ça, les mecs, ils aiment bien. Hein.
C'est une histoire cinématographique,
oui.
C'est une image.
Ça m'est arrivé une fois, voilà, à 19 ans.
Beaucoup de projets, je ne sais même pas si on aura le temps de tout citer. Le 16 février, Un autre monde de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon.
Oui.
Donc les retrouvailles avec Vincent Lindon.
Ouais, on avait fait Mademoiselle Chambon déjà avec Stéphane Brisé.
Et puis La chronique d'une liaison passagère.
Avec Vincent Macaigne, Emmanuel Mouret.
C'est incroyable tout ce qu'il y a. Et vous allez aussi... Non, c'est tourné avec Jean Dujardin.
Alors, avec Jean, c'est le film de Cédric Jiménez. Et après, j'ai fait le film de Nicolas Parizère avec Vincent Lacoste.
Qui s'appelle Le Parfum... Et c'est pas fini.
Le Parfum Vert.
Vous aviez tourné avec Albert Dupontel, c'était 9 mois ferme. Et second tour, ça a rapport avec les élections ou pas du tout ?
J'ai rien le droit de dire et je ferai tout ce que dit Albert.
C'est vrai.
Tout ce que me dit Albert de faire et de ne pas faire, je ferai.
Tout ce que je sais, c'est que c'est un petit rapport avec les élections, mais j'en
demanderai
pas
plus. En tout cas, on recommence, ouais, en avril.
10h54, mais oui, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebré.
Qui est mon préf.
Tous les jours, des personnalités viennent voir
mais
nos
invités. Mais est-ce qu'il peut faire Vincent Cassel ?
On va voir.
On verra la fin.
Non, aujourd'hui, c'est Laurent Delahousse qui vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Laurent.
Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Sandrine Kiberlin, immense talent, mais aussi une silhouette
dimanche
parfaite. Des yeux clairs, au regard envoûtant, une chevelure blonde, soyeuse et étincelante. Mais assez parlé de moi. Sandrine Kiberlin, je passe tellement de temps avec vous en ce moment que j'ai l'impression d'être un escorte. Mais non Sandrine, gardez votre argent, je fais ça pour vous. Pour la beauté du geste. Quand je vous ai reçu dans mon émission 20h30 le dimanche, qui était donc ce dimanche à 20h45, j'ai vu que contrairement à votre film, ça avait l'air plutôt agréable pour vous d'être occupé par un blond aux yeux clairs. D'ailleurs, croyez-moi que si les nazis avaient tous eu mon visage, il n'y aurait pas eu de guerre, mais plutôt beaucoup d'amour.
Et puis Sandrine, merci beaucoup Laurent. Sandrine, vous avez joué dans sa série. Dominique Besnéard, évidemment, est là ce matin.
Ah, salut les filles. C'est vrai que Sandrine Kiberlin, je l'ai fait jouer son propre rôle dans 10%. D'ailleurs, je voulais te dire, Sandrine, personne joue aussi bien Sandrine que toi, Sandrine. Franchement, pour ceux qui ont vu ma série, c'est-à-dire à peu près tout le monde, à part les aveugles et les gens qui n'ont pas de goût, bah, ils seront d'accord avec moi. En le voyant, on avait vraiment l'impression que tu vivais le perso. Hein. C'est pour ça que j'ai jamais pris Vandel dans 10%, parce que même jouer son rôle, il serait capable de le rater.
Non mais tellement.
Je suis mauvais ce matin.
Non, vous avez raison. Raphaël Mesrahi veut vous interviewer ce matin.
Alors, non, c'est pas ça. Oui. Isabelle Huppert, bonjour. Ah non, pardon, ça c'était hier. Je me suis emmêlé en fait dans les jours. J'ai oublié qu'on était déjà vendredi. Ah bon, alors, Sandrine Kiberlin, bonjour. Donc, j'ai une anecdote passionnante pour vous. Alors, en fait, il paraît que vous avez croisé 3 fois l'imitateur Marc-Antoine Lebray.
Ouais.
Voilà, apparemment, ça l'a plus marqué que vous. Donc, alors, une fois en vacances, une fois dans un restaurant.
Ouais.
Non, c'était une boulangerie. Parce qu'en fait, il m'a dit qu'il y avait une odeur appétissante de croissant. Non, c'était une rôtisserie. Voilà. Non, bon, enfin bref. Bon, il a une vie trépidante, hein, Marc-Antoine Lebray. Du coup, maintenant, il se balade tout le temps avec un scénario sur lui, au cas où il recroiserait une 4e fois. Donc, c'est l'histoire d'un imitateur qui veut imiter la vie de Sandrine Kiberlin jusqu'à se prendre pour Sandrine Kiberlin. Donc, ma question, c'est la suivante. La prochaine fois, est-ce que vous changerez de trottoir?
Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray.
Tout ça pour
merci,
ça.
Merci, hein. Sandrine Kiberlin. Ouais.
Et il peut me dire au revoir, Vincent Cassel.
Bah, je sais pas, j'hésite encore, quoi. Ça dépend de moi, quoi.
Ouais. Bravo, nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média.
Bravo Vincent.
Bravo Vincent, le pianiste Jean-François Sigel. On va parler de Mozart sur France 5 vendredi soir. Et puis Richard Colinca, batteur des Téléphones et des Insus, pour un nouveau spectacle, c'est ce qu'il fait.
Fils de Ginette Colinca.
Exactement, et il fait de la poésie avec Philippe Torreton. Vous savez pourquoi ils font de la poésie? Parce qu'ils ont une maison avec un mur mitoyen. Il y en a qui dit je fais des poèmes, l'autre dit moi je fais de la batterie, on va faire les deux. Il sera là demain pour en parler. Merci Sandrine d'avoir été avec nous. Bien fait pour vous, c'est maintenant avec Mélanie Gomez, Julia Vignali, le programme du jour.
Eh bien écoutez, on va essayer d'apprendre des trucs. Comment bien apprendre? Je ne sais pas, peut-être jouer de la guitare, apprendre le chinois, jouer au basket, siffler avec les doigts, c'est le rêve de Mélanie Gomez. Eh bien on a avec nous... il s'est fait Guillaume alias Super Echo sur YouTube qui a des méthodes
d'apprentissage,
comme ça on ne peut pas se louper.
Et voilà. Un deuxième sujet,
Camoulox. Dossier santé, oui, on va parler coup de projecteur sur l'endométriose aujourd'hui. Vous savez, même le président de la République a annoncé des mesures pour lancer une stratégie de lutte contre cette maladie. En attendant que ça porte ses fruits, on va voir comment mieux vivre avec cette pathologie. Voilà, ce sera dans un instant.
Merci beaucoup, bon programme. On se retrouve demain à 9h. Belle journée à l'écoute d'Europe 1. Salut.
Europe 1. Merci.